laquelle l'islam vraiment radical est anti-soufi, de même que le wahhabisme, etc. Ils sont anti-soufis, à mon sens, parce que le soufisme est vraiment peut-être un des seuls espaces de liberté radicale dans l'espace islamique.
L'espace de liberté de l'individu.
De l'individu, bien sûr.
Oui, c'est un espace de liberté de l'individu parce que c'est d'abord et avant tout une expérience profondément singulière et personnelle. Donc personne ne peut préjuger de la réalité de ce que vit une autre personne, qui est une espèce d'acceptation de la différence, de la diversité des expériences. C'est un adage soufi dit « il y a tant de voix qu'il y a d'enfants d'Adam ». N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a, dès le départ, cette considération que chaque être humain est unique et a une expérience qui lui est propre et qui est unique. Et je crois que tout un ensemble d'autres choses, par exemple, c'est ce qui fait que dans le soufisme, il y a aussi cette idée que les communautés humaines sont multiples et sont diverses. Et c'est la sagesse divine qui le veut ainsi. C'est-à-dire le fait d'intégrer tout à fait naturellement, et c'est l'esprit de l'islam, que dans une même société, il y a à la fois des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, d'autres encore. C'est-à-dire la diversité fait partie de la sagesse divine et qu'il est tout à fait naturel de l'accepter en tant que tel. Il y a un verset du Coran qui est souvent cité à cet égard. « Ô humains, nous avons créé d'un homme et d'une femme et nous avons fait de vous des peuples et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. » La diversité est fondamentale. C'est ce qui d'ailleurs justifie le fait qu'à Fès, nous ayons voulu développer ce projet qui s'est développé si naturellement dans ce contexte du Festival des musiques sacrées du monde, par exemple.
Oui, alors très concrètement, est-ce que par rapport aux réactions identitaires que vit l'islam aujourd'hui, et pas que l'islam, hein, on peut dire toutes les religions du monde sont prises par dans la peur de la mondialisation, la peur de l'autre, par des retours identitaires qui font peur. Mais dans le monde musulman, où il y a plus d'un milliard de musulmans, évidemment, ça prend une proportion qui est assez inquiétante pour beaucoup. Et dans tout ce printemps des pays arabes qui sont en train de se transformer dans un automne islamique, est-ce que vous avez l'impression que face à tous ces raidissements identitaires, normatifs, etc., le soufisme a assez de force, assez de poids, assez, j'ai envie de dire, de division, hein, assez de gens, ou assez de penseurs influents pour jouer un rôle qui pourrait justement éviter que l'islam, dans les décennies à venir, se replie sur une identité culturelle du passé et s'ouvre aussi à la diversité, à la différence et à la liberté individuelle?
Oui, moi je pense que le soufisme a une très très grande présence dans l'ensemble du monde musulman parce que c'est quelque chose qui s'est diffusé, qui s'est accumulé depuis des siècles. Il y a un patrimoine culturel, poétique, artistique, des valeurs, du comportement par exemple relatif au travail, avec les corporations de métiers. Enfin tout cela, ça constitue en quelque sorte les arcanes les plus profonds de la civilisation de l'islam. Et il est clair que de ce point de vue-là, le soufisme a un rôle majeur à jouer à l'avenir et ils sont en train de le faire d'ailleurs parce que ces conflits, je crois, sont nés identitaires, se sont nés dans un monde profondément, si je puis dire, d'une certaine forme de modernisme, c'est-à-dire que c'est un peu les deux faces d'une même médaille. Il y a une espèce de matérialisme extrême et il y a une espèce d'idéalisme extrême de l'autre côté qui sont tous les deux en fin de compte des actions et des réactions par rapport à une vision profondément, si je peux dire, réductrice de l'existence, idéologique. Et donc, je pense qu'il faut aller vers ce qui est beaucoup plus dans la complexité, beaucoup plus dans la richesse de l'âme humaine, de la civilisation humaine. Et je pense que le soufisme a apporté énormément de ce point de vue-là. Et le simple fait, par exemple, qu'à Fès, nous fassions cette rencontre autour de la culture soufie, il y a une espèce d'engouement absolument extraordinaire parce que ça résonne au plus profond, ça éveille cette éducation, si je puis dire, de l'affectif. Vous savez, le problème avec des problèmes identitaires, c'est qu'on est dans une espèce de forme figée, n'est-ce pas ? Et on n'est pas dans cette capacité de faire progresser, n'est-ce pas, notre perception de l'émotionnel, cette alchimie de l'émotionnel qui font de nous des êtres humains avec toute notre richesse et notre complexité.
Mais sur ce que vous faites, l'importance de ce que vous faites, les intentions que vous prenez, on est tous d'accord, c'est merveilleux. Ma question est beaucoup plus concrète. Est-ce qu'il existe actuellement en Égypte, en Afghanistan, au Pakistan, dans tous ces pays-là, est-ce qu'il existe des mouvements de masse soufis et qui peuvent s'opposer à des mouvements salafistes et autres?
On ne peut pas s'opposer dans le sens
s'opposer ou donner
savez,
une autre,
ça ne serait
faire évoluer l'islam autrement.
Voilà,
vous
ça
voyez.
Ne serait qu'en rentrer dans l'action de action-réaction justement.
Non, mais le mot est mal choisi, mais vous voyez très bien ce que je veux dire.
Tout à fait. Je pense que ça existe et il y a des personnalités d'ailleurs qui ont exprimé cela de façon tout à fait claire, qui deviennent aujourd'hui, qui peuvent aujourd'hui redevenir des véritables points de référence et d'éclairage. Je pense par exemple à l'émir Abdelkader. Pensons à sa lettre aux Français de l'époque où il avait dit qu'il fallait que l'Orient et l'Occident se donnent la main et qu'ils pouvaient véritablement construire ensemble une nouvelle civilisation. N'est-ce pas? Ça, je crois que c'était fondamental. Mais il y a aussi Mohamed Iqbal. N'est-ce pas?
Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y en a? Oui, on a non, fait une émission sur lui.
Ce que je
est-ce
dire...
qu'aujourd'hui, il y en a des Abdelkader en Pakistan?
Je pense qu'il y a beaucoup, peut-être pas forcément de cette envergure-là, mais il y a beaucoup de penseurs qui sont dans cette dimension-là. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'invite tout un ensemble de conférenciers de l'ensemble du monde musulman pour parler de cette culture du soufisme et du rôle qui lui appartient de jouer aujourd'hui.
Oui, ou même de cette contre-culture, parce que ce que vous pointez du doigt, c'est quand même, je pense que vous voulez dire, Frédéric, c'est qu'il y a quand même une ignorance des musulmans eux-mêmes de cette tradition. Alors je prends en Occident, est-ce que dans les banlieues, les musulmans de France sont largement conscients de cette présence, de cette prégnance du soufisme dans leur culture? Je n'en suis pas certaine.
Mais même de la connaissance des fondamentaux de l'islam, d'ailleurs, dans certains cas.
Oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur envoie à force de pétrodollars des gens pour les former au salafisme. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait aussi au niveau des populations les plus, je dirais, les plus défavorisées au point de vue de la connaissance et de l'accès à une connaissance en profondeur?
C'est pour cela que cela peut se faire que par le biais, justement, de la culture. Par exemple, pensons au chant du Sama, qui a joué un rôle si important. Aujourd'hui, par exemple, c'est la même chose. On observe ce mouvement-là en Turquie. N'est-ce pas? Il y a une espèce de libéralisation des confréries soufis et de rôle que jouent les confréries soufis qui est absolument formidable. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on se trompe beaucoup lorsqu'on considère le gouvernement turc comme islamiste. Il est profondément inspiré du soufisme. Et là, on voit que la façon dont ils agissent et leur type d'ouverture, l'ouverture au dialogue des civilisations, au dialogue des cultures, leur respect des droits humains, leur pragmatisme, je puis dire même politique, est extrêmement inspirant. Donc je pense que de ce point de vue-là, et on peut véritablement continuer à cette diffusion par le biais de la culture. Quand on va là-bas, on assiste à des séances de Sama, dans les confréries, on voit qu'il y a une espèce de profusion tout à fait extraordinaire, et on voit qu'il y a une espèce d'irrigation spirituelle de la société, n'est-ce pas, qui s'accompagne tout à fait d'une modernité bien comprise. Eh bien je pense qu'on peut avoir ce type de choses également dans les banlieues par la culture, c'est par le chant, par l'art, par l'éducation, si je puis dire, de l'émotion la plus profonde, parce que c'est là que ça se passe, c'est-à-dire de l'intériorité. Et ça ne peut pas passer simplement par des discours, mais ça passe aussi par une participation.
L'émission des Racines du Ciel en compagnie de Faouzi Skelly touche à sa fin. Lélie Envar pour l'agenda culturel.
Oui, tout à fait. Alors avant d'aborder l'agenda à proprement parler, je voudrais signaler que les éditions Garnier Flammarion nous ont fait une réponse à la suite de l'émission que nous avions faite avec Jean Stone, dans laquelle la traduction qu'ils ont publiée de l'ouvrage Darwin a été quelque peu critiquée. Donc, comme la réponse est très longue, dans laquelle ils s'expliquent véritablement des raisons de leur choix, pourquoi ces traductions, pourquoi quelles éditions ils ont choisies, je renvoie nos éditeurs à notre site sur lequel nous publierons donc l'intégralité de cette réponse des éditions Garnier Flammarion sur ce sujet controversé lors de l'émission avec Jean Stone. Quant à l'agenda, donc, je voulais signaler bien sûr la tenue du Festival de Fès, des musiques sacrées du monde, que vous avez donc créé. Alors ce festival, il y aura comme chaque année une partie musicale, artistique, avec des chanteurs, des groupes de musique sacrée qui viendront, ou des individus comme John Baez par exemple. Donc il y a un programme très très riche sur le plan musical, là aussi nous mettrons tous les détails sur notre site, mais il y a aussi donc le Forum de Fès, une âme pour la mondialisation. C'est une application pratique de tout ce que vous venez de défendre, à savoir précisément faire connaître ce message spirituel, alors mondial, parce que c'est pas seulement le soufisme, mais faire connaître ces puissances du spirituel qui permettraient peut-être de réenchanter le monde, puisque c'est le thème donc cette année du forum, le réenchantement du monde, avec 4 jours de rencontres sur des thèmes variés. Nous mettrons le site sur notre site, justement. Et c'est du 8 au 12 juin à Fès. Et j'invite nos auditeurs qui le souhaitent de s'y rendre, ne serait-ce que parce que pendant ce festival, la ville de Fès est particulièrement résonante de spiritualité. Et puis la deuxième chose que je voulais signaler, c'est la sortie d'un CD de Aïcha Redouane. Ça s'intitule « Maqam d'amour ». Et alors c'est un très très beau CD parce que c'est une mise en musique des poèmes de Rabia al-Adawiya dont nous n'avons pas eu le temps de parler mais qui a été une des très grandes figures de la mystique, du soufisme justement. C'est la première qui a parlé justement d'amour de Dieu en termes presque d'amour humain en fait. Hein. Et donc ces poèmes sont très très beaux, incandescents et ils ont été mis en musique par Aïcha Redouane et Habib Yamin et c'est publié au Chant du Monde, c'est édité chez Chant du Monde.
Fawzi Skali, je rappelle le titre de votre livre, Le souvenir de l'être profond, propos sur les enseignements d'un maître soufi, Sidi Hamza, aux éditions Durolier. Donc j'invite tous nos auditeurs qui veulent aller plus loin dans la connaissance du soufisme à lire ce livre. Merci beaucoup d'être venu nous voir aux Racines du Ciel.
Merci à vous.
Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine ou bien la réécouter pendant plusieurs mois sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai le philosophe Raphaël Enthoven et nous parlerons de la mystique immanente. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Excellent dimanche à tous. Oh.